Une remarque sur le fait divers, quel que soit celui qui vous hante en ce moment, une disparition, un meurtre non élucidé, une imposture, un prodige. Il nous tombe dessus partout, tout le temps, et il provoque toujours la même fascination. C'est remarqué, le même étonnement. Dans un récent essai, aussi singulier que passionnant, la romancière Mine Tranui propose à l'aune des faits divers une autre histoire de la littérature et l'exploration de sa propre littérature. Elle remarque, au tout début de son livre, que le terme de faits divers, on ne le trouve qu'en français, et que si ailleurs on parle volontiers d'affaires criminelles ou de nouvelles locales, le terme en tant que tel, qui a fait ses preuves dans l'histoire, on le doit en réalité à un romancier français, Théophile Gautier, et que la première occurrence du terme fait divers, on la trouve dans une œuvre de fiction, et il s'agit d'une nouvelle lue dans un journal qui s'avéra être complètement fausse. Ça peut sembler tout à fait anecdotique, mais on comprend mieux du coup le lien fondamental qui unit la littérature aux faits divers, cette forme littéraire concentrée, lapidaire, à la fois étrange et terriblement familière, qui invite celui ou celle qui le lit à imaginer ce qui s'est produit, à compléter tout ce qui ne s'est pas dit, à expliquer aussi. En parcourant les nouvelles ce matin, j'ai trouvé une dizaine de débuts de romans qui ne tarderont pas, gageons-le, à être écrits.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Quelle fiction mon invitée d'aujourd'hui trouve-t-elle ou non dans le fait divers? Elle qui est non seulement journaliste de formation mais aussi romancière. Summer, c'est le nom de son nouveau livre, l'un des plus beaux à mon sens de cette rentrée. L'histoire d'une jeune fille qui disparaît sur les bords du lac Clément et dont le frère, 25 ans plus tard, se souvient. Un récit en eau trouble où nagent fantômes et secrets. Bonjour Monica Sabolo.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et de littéraire pour vous dans le fait divers? Là, c'est autant à la journaliste qu'à la romancière que je m'adresse.
Alors, le fait divers, c'est comme une sortie de route, je trouve. C'est comme si on marche sur un petit chemin et sur le côté, en fait, alors que tout est familier, il y a une sorte de précipice et qu'on marche au-dessus des gouffres. Je pense que c'est le fait des questions sans réponse, de la disparition, de que s'est-il passé. Tout de suite, l'imaginaire glacé a besoin de réponses et peut y mettre des choses dans les espaces vides.
Il y en a qui vous ont hanté des faits divers. Vous pensez à un fait divers en particulier? Ça peut être un récent, comme ça peut être un...
Oui, bah, par exemple, l'histoire de la petite Maëlys, là, parce que cette petite fille qui a disparu depuis des semaines et elle est toujours suspendue, elle avait 9 ans, elle a une petite robe blanche, c'est le jour d'un mariage, c'est familier, c'est joyeux, c'est la fin de l'été, et en fait, il y a comme un calque qui se pose sur cette image, un calque de la sidération et de pires cauchemars.
Pour autant, Summer, votre roman, qui est l'histoire d'une disparition mystérieuse, comme on en lit beaucoup, c'est pas une variation sur un fait divers, si?
Non, c'est plus une projection sur la fantasmagorie, je dirais, sur le fait que le livre s'appelle Summer, du nom de l'héroïne qui disparaît. Elle se volatilise, elle s'évapore en quelque sorte. Il n'y a aucune explication, aucune trace. Et j'aime l'idée qu'elle n'existe qu'à travers le regard que les autres ont porté sur elle, un regard très différent, un regard fantasmagorique et complètement adorateur de son frère, mais ça peut être aussi un regard beaucoup plus dur d'une société conventionnelle qui va la voir comme une fille légère, qui a peut-être eu que ce qu'elle méritait. Donc le regard on projette quelque chose de soi.
Sur une absence. En fait, je vous parle d'absence parce que vivre avec l'absence, c'est le lot de votre personnage principal, Benjamin, le frère de Summer. Comment on vit avec l'absence, Monica Sabolo? Comment on vit avec les fantômes?
Bah, lui dit qu'il a passé 25 ans à vivre sans penser à elle, hein, aussi glaçant et stupéfiant que cela puisse paraître. Moi, je pense que c'est totalement faux. Il s'est arrêté de vivre. Il a même la sensation qu'il est parti avec elle. Qu'ils vivent peut-être, elle et lui à l'âge de 14 ans, quand elle a disparu, elle 19 ans, et que ce serait dans un monde parallèle auquel on accéderait à travers la surface d'une piscine ou la glace d'un miroir. Et quand il va tout à coup se retrouver paralysé dans sa vie, c'est-à-dire impossible d'avancer parce que soudain submergé par le souvenir de sa sœur, il va se mettre à rêver d'elle, la voir dans l'eau, elle ouvre la bouche, elle essaye de lui dire quelque chose mais il n'entend rien, elle est enroulée dans ses cheveux ou dans des bancs de poissons et elle disparaît. Il va être obligé finalement de revenir à la vie et de redevenir présent à lui-même pour chercher la réponse.
Est-ce qu'écrire, Monica, Ça peut être une solution, ça peut être une tactique, peut-être, pour vivre avec l'absence.
Alors, je pense que pour vivre avec l'absence, c'est l'écriture, c'est possible, mais c'est, je dirais que c'est la quête de la vérité. Pour moi, le monde de Summer, c'est le frère, la famille, la société qui fait comme si de rien n'était. C'est-à-dire que plus personne ne prononce son nom 25 ans après. Et ça, c'est impossible. Ça fait des êtres désincarnés. Il y a une énorme chose qui est là, qui grossit et qui est représentée dans le livre par le lac, qui est comme le réceptacle de tous les secrets, les non-dits, les fautes, etc. Mais je pense qu'on ne peut pas, on fait semblant que ce lac n'existe pas, que c'est un terrain de jeu. Mais non, c'est une présence dense qui vous aspire et vous ne pouvez pas exister sans regarder les choses en face, en ouvrir la chambre noire.
Alors là, c'est vraiment à la romancière que je m'adresse et que j'écoute avec passion ce matin. Comment on fait pour l'écrire, du coup, tout ça? Pour écrire l'absence, Monica Sabolo? Comment la rendre palpable, en réalité?
Alors, je sais pas, peut-être par la sensation. Par la sensation, par la nature, par les images. Il me semblait que par une recherche de la poésie ou d'une sensation physique, de lumière, l'eau qui peut être tour à tour noire, opaque, aspirante, ou alors une source de vie qui donne envie d'aimer ou de vivre très fort, presque d'une façon douloureuse, ça permet d'évoquer des sentiments comme la colère, comme le chagrin, comme le désir, de façon plus multiple.
L'atmosphère, effectivement, de Summer, votre livre, c'est celle d'un été qui se termine. C'est surtout celle de l'eau stagnante du lac Léman à Genève, dont vous venez de parler. Vous avez grandi au bord de ce lac, Monica, quand vous étiez petite. Qu'est-ce que vous imaginiez sous la surface?
J'imaginais des choses assez angoissantes, comme on peut s'en douter en lisant Summer, étant donné que Benjamin y voit des créatures luisantes, moites, qui rampent avec des grands yeux qu'ils regardent. Donc oui, ce lac, il est très brumeux, à part les mois d'été où il pourrait ressembler à une Méditerranée et qui donne justement cette soif de vivre ou d'être amoureux. Le reste du temps, on a toujours un peu peur de se baigner dans un lac. C'est très différent. On va dans la mer d'une façon joyeuse et franche. Dans un lac, on ne sait pas tout ce qu'il pourrait y avoir là-dessous. Et en plus, même Benjamin le dit, c'est de l'eau stagnante. C'est-à-dire que tout ce qui est jeté là, et on ne sait pas ce qui est jeté là, ne disparaîtra jamais, ne sera pas nettoyé par les eaux vives du torrent. Restera là et va grossir comme par les sédiments avec le temps. Donc, tout reste, rien ne sera effacé.
Et risque de réapparaître à tout moment. Aujourd'hui, quand vous vous penchez au-dessus de ce lac, Monica Sabolo, et que vous croisez votre propre regard, vous voyez quoi?
Mon propre regard dans le lac. Je me souviens surtout de moi, quand même fascinée par cette eau, parce que même si elle me faisait peur, j'allais quand même plonger dans le lac Léman, faire de la plongée sous-marine dans le lac Léman au mois de février. Donc ça montre quand même une certaine attirance pour ce qu'il y avait là au fond de sombre, mais en même temps de peut-être un peu brillant et d'attirant.
Ce que je propose, c'est que le lac est possiblement un miroir aussi.
Ah ben oui, bien sûr, c'est un miroir. C'est un miroir aussi. Pour moi, c'est la représentation de l'inconscient. C'est-à-dire tout ce qui ressurgit malgré nous. D'ailleurs, Benjamin, il a une vision extrêmement anxieuse de ce lac. Il a la sensation que sa maison, elle est posée, qui est donc au bord de l'eau, elle est posée sur cette pelouse et que cette pelouse n'est en fait qu'un tapis d'herbe flottante qui cédera un jour sous leur poids et les emportera dans les profondeurs. Donc, effectivement, il porte une faute, il sait pas si c'est vraiment la sienne, mais il a un sentiment de culpabilité, quelque chose de l'ordre d'une responsabilité, une force sourde. Et le lac représente le miroir de son inconscient, de ses angoisses et de ses pensées secrètes.
Quand vous vous relisez, quand vous vous confrontez de nouveau à votre texte, aux phrases que vous avez écrites, quelle impression est-ce que ça produit?
J'essaie qu'il y ait une musique. Quand j'écris, je me mets dans un état qui est presque un état parfois de transe, un peu pour que ça sonne, pour justement laisser monter des sensations ou des images qui pourraient pas paraître trop évidentes tout de suite. Et donc, s'il y a une musique et que ça fait une sorte de ta-da, 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 et que ça emporte, je me dis « ok, ça va ».
Et il y a toujours un sentiment d'étrangeté après coup?
par rapport à l'écriture, oui, parfois je me dis, ouais, c'est étrange. C'est... De toute façon, le livre, il est enroulé à l'intérieur de moi. Il se déroule tout seul. Au bout d'un moment, il prend le pouvoir.
C'est ce que j'allais vous dire. Peut-être ouais. que vous ne l'avez pas écrit, ce livre. Peut-être que c'est un fantôme. Et croyez-moi, je ne dis pas ça parce que ce soir, c'est Halloween. Je ne suis pas comme ça. Hein. C'est possible?
Oui, surtout qu'au départ, j'ai écrit cette scène de la disparition, donc ce pique-nique entre des jeunes filles très lumineux, enfin d'été, et donc Summer qui fait un petit signe de la main, qui rentre dans les fougères, qui disparaît, et je n'avais aucune idée de ce qui lui était arrivé.
Celle qui ressemble à Halloween dans cette émission folie hein, de cette transition, c'est la culture et son actualité déguisée, effrayante et en hypoglycémie permanente. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 31 octobre?
We are pure, we are strong, we are brave, and we will fight!
De l'art et des cochons, c'est au tour des femmes de l'art contemporain de dénoncer les abus misogynes et notamment le harcèlement sexuel dans leur milieu. Dans une lettre ouverte titrée « Pas surprise », plus de 7000 galeristes, étudiantes ou artistes renommées, dont Cindy Sherman ou Laurie Anderson, dénoncent un sexisme normalisé, des traitements inégaux et des conduites inappropriées. « Nous ne serons plus silencieuses », assure-t-elle. Hashtag not surprise. Sprint final pour le Goncourt. Les honorables jurés emmenés par le non moins honorable Bernard Pivot ont révélé hier leurs 4 finalistes. Résultat parité parfaite. 2 hommes, 2 femmes. On retrouve Véronique Olmy pour Bakita, Alice Zaniter et son art de perdre, Éric Vuillard pour l'ordre du jour et Yannick Enel avec Tiens ferme ta couronne. Fin du suspense lundi prochain. C'est reparti, Miyazaki Ki, le maître de l'animation japonaise Hayao Miyazaki, qui avait tiré sa révérence en 2013, a décidé de sortir de sa retraite pour la bonne cause. Son prochain et dernier film sera dédié à son petit-fils et le réalisateur vient de révéler qu'il s'appellerait Kimitashi Wado Ikiryuka, ce qui veut dire « Comment vivez-vous ?» en japonais. Livraison prévue dans 3 ans minimum. Merci Ki, merci papy.
La poésie n'existe que parce que précisément deux mots qui n'ont pas grand-chose. Apparemment, à faire ensemble, se retrouve. Et de là, jaillit, par le choc de ces deux mots, jaillit une espèce d'étincelle.
Dernière lumière de l'étoile Berger, 2 mois après la disparition du mécène, Pierre Berger, l'ami Laure Adler, consacre une semaine entière de son heure bleue à la vie, aux œuvres et aux passions de l'inclassable passionné. Confessions et discussions, art, lettres, amour et mode, c'est terriblement chic. Et c'est à découvrir tous les soirs de cette semaine dès 20h sur France Inter, évidemment. La romancière Monica Sabolo, invitée de Boomerang ce matin pour son roman Summer, qui était dans l'avant-dernière liste du Goncourt. C'est le moment où jamais d'exprimer votre déception, Monica, voire votre colère. C'est Halloween. Vous pouvez tout vous permettre, du sang, des cris, des larmes, non?
Franchement, moi, j'avais déjà l'impression de l'avoir eu en étant sur les 2 premières listes. Donc voilà, je préfère qu'on ne s'étende pas sur cette nouvelle un peu regrettable.
Pour Summer, donc, c'est le nom de votre roman, le nom d'une jeune fille qui a disparu du jour au lendemain, sans laisser de traces, on le disait il y a plus de 20 ans, quand commence le roman, c'est aussi le titre donc de ce livre, Summer, votre 5e. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire, Monica?
Je me souviens, j'avais écrit une petite histoire quand j'avais 6 ans, sur la Lune, où j'allais sur la Lune et on ne me comprenait pas. Et je revenais, je parlais la langue de la Lune et on ne me comprenait toujours pas. Donc voilà, je pense que ça dit des choses depuis...
À quel âge est-ce que vous avez commencé à écrire sur l'adolescence? Parce qu'en fin de compte, j'ai l'impression que vos livres ne parlent que de ça.
Oui, ça ne parle pratiquement que de ça. Je ne pourrais pas vraiment expliquer pour quelle raison, mais je parle toujours de l'adolescence. Je ne sais pas, c'est un âge... Peut-être que j'ai la sensation de ne pas vraiment avoir vécu, d'avoir été assez fantomatique, d'avoir regardé les autres faire des choses... Et moi, de pas les vivre. Et puis, je sais pas, c'est peut-être un âge où tout est possible et en même temps, rien n'est possible.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans Summer, l'adolescence féminine, elle est perçue à travers le regard d'un garçon. Mm-hmm. Elle ressemble à un fantasme, ces jeunes filles longues, graciles, blondes, qui éveillent le désir. C'est comme si elles n'étaient pas réelles, en fait.
Je pense que c'était une façon de regarder les jeunes filles avec fascination, me permettait de rentrer dans la peau d'un garçon, parce qu'il pas évident de parler par la voix d'un homme, mais c'est pas un homme, c'est la voix d'un garçon. Et finalement, la fascination qu'il a pour ces jeunes filles qui lui semblent parfaites peut ressembler à celle que moi, adolescente, je pouvais ressentir vis-à-vis de certaines créatures qui me semblaient traverser l'existence comme des petits voiliers à la surface du lac.
Et du coup, quel regard est-ce que vous portez sur l'adolescente que vous étiez à travers ce livre ?
Je pense que j'ai une certaine tendresse, comme j'ai une tendresse pour Benjamin que je trouve extrêmement touchant. Il a tout du anti-héros, il est agité de tic, il a une vraie étrangeté au monde, il se sent désincarné. Il a toujours la sensation d'être, il doit se concentrer pour simplement avoir l'air naturel. Ce sont des choses que j'ai pu connaître, voire que je peux connaître encore parfois.
De quoi vous rêviez à l'époque ? Vous vous souvenez ?
J'étais très sentimentale, donc je vivais des passions secrètes avec beaucoup de garçons de ma classe ou des choses comme ça qui ne me voyaient pas. Et j'avais aussi l'intention d'embarquer sur la Calypso avec le commandant Cousteau.
De disparaître, du coup ?
Non, j'avais plutôt envie d'apparaître, je crois. J'avais plutôt l'envie d'être plus présente au monde que je ne l'étais.
Ça, c'est intéressant. Dans quelle mesure l'écriture, pour vous, c'est un moyen, justement, Monica Sabolo, de vous rendre plus présente au monde ?
Ça rend les choses tangibles de les poser avec les mots. Il y a quelque chose qui prend forme, qui s'incarne. Et pour moi, c'est vraiment comme une circulation de vie, de sève, quelque chose de très vivant, de physique.
Parce que c'est de ça dont il s'agit, j'ai l'impression, dans ce livre, de la difficulté d'être au monde. Qu'est-ce qui leur manque à vos personnages pour être au monde ?
Peut-être un amour familial, un regard qui les incarne, puisque là, les parents de Benjamin semblent attendre autre chose de lui que ce qu'il n'est. Son père voudrait que ce soit un grand sportif, sa mère est très absente et rêveuse, comme si elle n'avait pas... de réponses concrètes à ses envies de bonheur, et Benjamin pense que c'est de sa faute. Donc je pense que ça part avant tout de là. Il y a effectivement la disparition de sa sœur qui le regardait avec amour et qui était très présente pour lui, et le fait qu'elle disparaisse, c'est vraiment un œil bienveillant. Mais finalement, c'est antérieur à la disparition de sa sœur, cette désincarnation. Et le fait de chercher la vérité, de vouloir des réponses et d'oser regarder quelque chose qui va être forcément comme un deuil, qui va être une traversée, et on sait qu'on va y perdre quelque chose, et étrangement, une façon de regagner son existence.
Moi, je vous propose d'être au monde ce matin, tous les deux, avec la voix de Julie London, tiens, qui reprenait en 1963 ce si beau standard de Skeeter Davis. The End of the World, vous êtes sur France Inter avec Monica Sabolo, vous écoutez Boomerang et vous êtes ensemble.
Why does the sun keep on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand, no, I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart keep on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? it ended when you said goodbye. When you said goodbye.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
En fait, la voir en face de foi, c'est tout de suite imaginer l'adolescente qu'elle était, chevelure blonde, ébouriffée, peau diaphane, regard bleu, légèrement voilée comme le lac Léman un jour de beau temps, un jour d'été avec des filaments de nuages dans le ciel bleu. Elle est atmosphérique et risque fort de me rétorquer de sa voix douce qu'elle n'a pas une gueule d'atmosphère. chaudement vêtue, ce matin, petit pull, col à carreaux et veste cintrée, la romancière Monica Sabolo, invitée de Boomerang ce matin pour son roman Summer, donc, qui est évidemment dans notre sélection JDD France Inter. L'histoire, on le disait, d'un jeune homme dont la sœur a disparu. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, et ne comptez pas sur moi pour vous le dire. L'histoire de ce fantôme qui vient le hanter 25 ans plus tard, et progressivement, il va se souvenir de ce qu'il s'était forcé d'oublier durant toutes ces années. C'est un livre sur la mémoire, en fait, sur le mécanisme de la mémoire, et tout commence le jour où l'on repeint son bureau. Il faut nous expliquer ça.
Oui, je pense que les odeurs, les parfums peuvent vous immédiatement vous propulser dans le passé. Et là, cette odeur de peinture lui rappelle le parfum de la maison dans laquelle il vivait avec sa sœur et ses parents sur les bords du lac. Il perd connaissance et c'est ce petit détail minuscule, anodin, qui va faire basculer la vie de Benjamin.
Vous êtes en train de nous refaire le coup de la Madeleine, Monica. C'est bien. Il existe un lien mystérieux entre mémoire et parfum. Voilà ce que vous écrivez, page 22. C'est ce que lui dit aussi son thérapeute. Quels sont les parfums, vous, que vous n'oubliez pas ?
Les parfums de l'eau. L'eau, justement, l'eau du lac, les algues, quelque chose entre la vie et la décomposition. Le parfum de l'eau, quand il y a le soleil dessus, le parfum est totalement différent. Il a quelque chose de frais, de délicat.
J'adore. Je vous sais quoi, je vais vous donner un mot, vous allez me dire quel parfum il vous fait penser, d'accord ? Vous avez le droit d'utiliser plus d'un mot et hein, de nous l'évoquer, ce parfum. C'est presque un exercice d'écriture, en somme. Si je vous dis maison, Monica Sabolo.
L'odeur de la peinture.
Hiver.
Un parfum mouillé. La neige, quelque chose de mouillé, mouillé sur la peau.
Summer.
Alors c'est plus de la lumière là, c'est plus une lumière d'été un peu dorée, de rasante de fin de journée.
C'est un parfum ça ?
Oui, vous voyez, peut-être les fleurs aussi, quelque chose d'herbe, de l'herbe, un parfum d'herbe et d'eau encore.
L'adolescence ?
Un parfum de gloss à la framboise, une cigarette, un parfum de cigarette sur ses vêtements. Non, j'ai pas fumé, bien sûr, j'étais dans un endroit où tout le monde fumait, vous voyez.
L'amour.
Un parfum. Un peu les mêmes, hein. Un parfum de gloss à la framboise et de cigarette.
L'amour ne serait-il qu'adolescent ?
Il fait ressurgir des émotions très proches, ouais. On devient un peu adolescent. 14 ans, l'amour, ouais.
L'océan.
Une odeur organique et un peu glacée, métallique.
J'aimerais lire un extrait de votre roman, Monica. Un extrait où il est question justement d'eau et du lac Léman. Sous l'eau, un doux remous dans les profondeurs. Summer est là. Elle porte une chemise de nuit bleue qui vole autour d'elle comme des ailes ou des nageoires. Les ondulations souples d'une raie. Au-dessus de sa tête, loin très loin, le mouvement de la surface qui tangue, un roulis de lumière. Summer, les yeux grands ouverts, je vois mon reflet dans ses pupilles, une petite silhouette, telle une minuscule poupée, à l'intérieur d'une autre poupée. Et pourtant je ne suis pas là, je suis ailleurs. des poissons surgissent de l'obscurité immense, rose pâle, bleu sombre, marbré d'argent. Certains traînent de longs filaments sous la bouche, d'autres ont un cercle noir dessiné autour de l'œil. Ils approchent, leurs nageoires semblent suivre le mouvement de ses mains. Ils frôlent son corps dans un ballet extraordinairement gracieux. Les spécimens rose pâle s'embrassent, leurs bouches comme des ventouses, parfaitement synchronisées dans un mouvement languide qui évoque une parade amoureuse ou un combat. Puis ils se détachent et leurs bouches de caoutchouc embrassent la peau de ma sœur, ses bras, son visage, tandis que leurs filaments l'entourent de plus en plus nombreux. Ils l'enlacent, se mêlent à ses cheveux qui se déploient de plus en plus longs et amples dans le courant. Dans quelle mesure, Monica Sabolo, écrire, c'est aussi être sous l'eau?
Ah mais complètement. Quand j'écrivais, j'allais à la piscine presque tous les jours. Ouais, je nageais et ensuite je me mettais à écrire. Et j'avais vraiment la sensation de passer d'un élément liquide à l'autre.
Et il faut être en apnée?
Oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'apnée, de la descente, de la plongée aussi. Pour moi, il y a presque ce mouvement du roulis, ce bruit du roulis de l'eau. Quelque chose de lent et d'étouffé dans les bruits qui me mettaient dans cet état d'écriture.
Moi, ce qui me frappe dans l'extrait que je viens de lire, c'est évidemment la dimension aquatique des images que vous faites surgir, mais aussi la précision quasi photographique de votre écriture. Photographique et centrale chez vous, et qui était au cœur de votre roman d'amour. Tout cela n'a rien à voir avec moi. Par exemple, quelles sont les photos qui vous ont entouré au moment de l'écriture de Sommer?
Alors, il y avait des photos de Margaret Duro, qui est une jeune photographe américaine originaire du Wisconsin. Et la photo de couverture de Sommer, d'ailleurs, est une de ces images. Ce sont souvent des jeunes filles avec des grands cheveux dans la nature, dans une nature un peu ample, sauvage. Elles sont toutes petites, il y a la mer, il y a des plantes très délicates, sauvages, d'une certaine lumière. Et ça me... Il y a un mystère et une sorte de... fantasmagorie, quelque chose d'inaccessible et d'un peu poétique et d'un peu angoissant,
oui.
Vaguement angoissant, qui me faisait penser à l'héroïne de mon livre.
Vous en prenez, vous aussi, des photos?
Oui, j'aime beaucoup prendre des photos, ouais. même parfois des photos absurdes et grotesques.
Il se trouve que vous êtes venue avec une photo, Monica Sabolo, ce matin. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, s'il vous plaît?
Oui, alors je suis venue avec une photo parce que souvent, avant d'écrire, je fais des photographies un peu... comme ça, qui me mettent dans un état, je sais pas, c'est comme un échauffement. Et j'aime bien photographier des objets du quotidien dans des situations poétiques ou inquiétantes ou drôles. Alors là, j'ai pris en photo l'évier de ma cuisine, dans lequel il y a donc des assiettes, un verre, même le produit vaisselle, une éponge. Et sur l'assiette sale, il y a une grande pieuvre noire qui déploie ses tentacules un peu menaçantes.
Qu'est-ce que c'est que cette pieuvre?
C'est une pieuvre en plastique, voilà, mais qui donne à une scène de la vie domestique un aspect un peu sauvage. J'aime bien faire cette rencontre un peu décalée de la vie domestique, les choses très familières, avec soudain un prédateur, un oiseau de proie, des requins qui sont dans l'évier ou des choses comme ça.
Et c'est dans ce surgissement de l'étrange que naît l'acte de création pour vous?
Oui, ça me fait... C'est un peu absurde, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, mais j'aime la poésie secrète des objets. Et c'était effectivement un peu le cas aussi dans Tout cela n'a rien à voir avec moi. Dans ce livre où il y avait des photographies, par exemple, de briquets, tout ce qu'il y a de plus banal, et qui était sacralisé par l'héroïne comme étant les reliques de l'amour, des pièces à conviction qui prouvaient l'existence de cette histoire amoureuse.
Comme je le conseille aussi aux auditeurs de Boomerang, ce roman qui était le vôtre. Tout cela n'a rien à voir avec moi. Merci infiniment, Monica, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Sommer est édité chez Lattès et que c'est un fort bon roman pour ce début d'automne, blotti dans son canapé, enroulé dans un plaid au coin du feu, même imaginaire. Un roman, vous ne serez pas étonné, qui fait partie de notre sélection littéraire JDD France Inter. Pourquoi s'en priver? Et pourquoi se priver du podcast de Boomerang aussi? C'est si facile. Un clic, c'est automatique, c'est magique, magique, comme Dorothée Barba et son instant M qu'on retrouve juste après ça.